Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4 sur les ondes marseillaises pour l'émission Une heure en Palestine. Je m'appelle Marie, vous m'avez déjà entendu quelques fois dans l'émission Une heure en Palestine parce que je suis venue vous présenter le podcast que j'ai co-créé. Il s'appelle Yalla, je t'emmène, c'est un podcast immersif qui t'emmène en Palestine. Et comme aujourd'hui on m'a laissé les rênes de l'émission, c'est pour moi l'occasion de fêter les 1 an de ce podcast. Il y a tout juste 1 an, on lançait avec Mewen Petar, le co-créateur, le tout premier extrait de Yalla, je t'emmène. Celui qui explique tout. Il parle de quoi au juste ce podcast ?
Ça fait 1 an.
Bonjour à tous, édition spéciale toujours consacrée à cette nouvelle guerre au Proche-Orient.
Ce matin, la branche armée du groupe palestinien Hamas a lancé une opération armée.
Une journée qui a marqué l'histoire du conflit israélo-palestinien.
1 an que les journalistes redoublent d'inventivité pour qualifier ce qu'il se joue là-bas. Encore au moment où je vous parle. Moi, je m'appelle Marie. Je suis française, mais j'ai habité 2 ans en Palestine avant d'en être évacuée, à cause de cette guerre qui n'en finit pas. Et parce que je n'en pouvais plus d'attendre de repartir.
Les vols ont repris.
Parce que je voulais vous montrer plus que ce à quoi on associe la Palestine. Et aussi parce que je voulais attirer l'attention sur une autre partie de la guerre passée sous silence, celle qui se déroule en Cisjordanie. J'ai mis sur pied ce podcast. Je vais vous emmener avec moi à chaque étape du voyage. Et surtout, je vais laisser la parole aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Pour qu'ils et elles nous racontent leur réalité.
C'est un rêve.
Et n'oublie pas qu'on ne vit pas dans une situation normale.
En particulier depuis ce 7 octobre 2023. Why a lot of countries have the right to defend, to resist, to fight, but Palestinians, they don't have the right to do this. It's like a prison break. Alors, tentez. Yalla, je t'emmène.
Should we start?
Voilà, pour vous donner envie d'aller l'écouter, portez la voix des Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie, et je crois que jusqu'à présent, on a réussi, puisque depuis qu'on a lancé ce podcast, toutes plateformes confondues, il y a 7000 écoutes, on est plus de 1100 à s'être réunis sur la page Instagram, et ça, ce sont les chiffres, déjà incroyables pour nous, mais il y a aussi toute la reconnaissance. On a parlé de nous dans le média Nouvelle Aube, dans Le Média, Le Monde qui vient, le podcast magazine, on a été reçu ici à Radio Galère par Philippe de Palestine 13 que vous entendez chaque mois dans cette émission, un grand merci à lui. On a été parmi les recommandations d'influenceurs culture sur Instagram, TikTok, par la journaliste spécialisée dans les podcasts Mathilde Meslin et plein d'autres. Et puis on a aussi organisé une séance d'écoute aux côtés de Massalia Vox ici à Marseille. On a été invité au podcast festival à Bruxelles chez nos amis belges en juillet, au Warm Festival à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, en juillet aussi. Et en juin, à domicile, ici à Marseille, on était très fiers de recevoir le prix du regard engagé au festival de podcast La Claque. Bref, la liste est longue et on en est très reconnaissant. Le message est passé, le bouche à oreille a fait son effet et continue de faire son effet. Et on en est très fiers de se faire les simples relais, le mégaphone en quelque sorte, de voix palestiniennes pour raconter leur propre réalité. J'ai parlé extrêmement vite ou c'est ok ?
C'est tout à fait ok.
Ok.
Tout est bon.
Et il y a autre chose qui nous rend fiers, ce sont vos retours. L'autre jour, je répondais à une interview pour Siham Tawil du blog De l'encre à la plume. Qui me posait la question de ses retours des auditeurs et des auditrices. Et nous avons été agréablement reçus par vous dans un moment de tension immense où relayer ces fameuses voix palestiniennes était particulièrement dur. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter l'extrait d'un épisode, et en l'occurrence, celui que vous, les auditeurs et les auditrices, avez le plus plébiscité d'après les chiffres que j'ai sous les yeux. C'est l'épisode 3 qui s'appelle Prison Break, avec à lui seul près de 1000 écoutes, rien que ça. Dans cet épisode, on est déjà arrivé en Cisjordanie, à Ramallah, à 15 km au nord de Jérusalem. On est chez Sami, un Palestinien originaire de Naplouse, une grande ville au nord de la Cisjordanie, et il nous explique justement que la Cisjordanie, à l'instar de Gaza, n'est rien d'autre qu'une gigantesque prison à ciel ouvert. Nous voilà dans Ramallah. J'y suis. Enfin. Après ces longs mois, ce long trajet, nous y voilà enfin. Je retrouve les sons. Et il y a même quelques odeurs qui s'infiltrent par l'interstice de la fenêtre ouverte du taxi. Celle de l'huile qui frit les falafels, celle du méchoui et celle sucrée du magasin de pâtisserie. Je suis à l'affût des moindres changements. Ramallah, depuis le 7 octobre, je n'en connais que ce que m'en disent mes amis ici et les actualités dans les médias locaux. Alors je ne sais pas trop bien à quoi m'attendre. On passe à côté d'un café qu'on appelle le Vintage Café. J'avais l'habitude de m'y asseoir pendant des heures pour travailler. Leurs playlists n'ont pas l'air d'avoir changé, et je crois même reconnaître les visages familiers des indéboulonnables serveurs. Les klaxons résonnent toujours, mais ils m'ont l'air moins nombreux qu'avant. Ou est-ce que c'est moi qui ne sais plus ? Bref, pas le temps de lambiner. On arrive devant la maison de mon ami. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez. Yalla, je t'emmène. Je vous présente Sami. On est content de se retrouver. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. Et ça fait aussi une paye que j'avais pas dit que ça fait une paye. Quoi qu'il en soit, à l'époque, on ne savait pas qu'on ne se reverrait pas pendant des mois. Mais dès qu'il ouvre la porte, les mois d'absence s'envolent presque instantanément et on retrouve notre complicité. Et puis le balcon, sur lequel on a l'habitude de s'installer pour papoter. C'est un balcon coloré, plein de plantes et à la lumière tamisée. On est assis à même le sol sur des matelas et on surplombe la rue. Alors vous allez voir, enfin, entendre quelques bruits de la rue. Bref, on s'installe, comme avant. Avant tout ça. Sami, avec ses lunettes rondes et ses envolées lyriques en explication, a tout d'un prof. D'ailleurs, il se voit bien le devenir un jour. Il s'allume une cigarette. Ok, ce serait un prof dans les années 60, de ceux qui font les 100 pas, le visage renfermé, et une clope qui se consume plus vite qu'il ne la fume. Comme avant, il me pose les questions de circonstances. Comment je vais ? Comment était mon trajet ? Combien de temps ça m'a pris ? Par quel aéroport je suis passé ? Par quelle route et puis par quel checkpoint ? Car oui, ici en Palestine, les discussions commencent toujours normalement, mais dérivent toujours vers l'irrationalité de la situation ici. Et c'est pour ça que je voulais que vous le rencontriez, pour qu'il vous raconte son expérience des routes en Cisjordanie. Parce qu'elle est représentative de celle de 3 autres millions de Palestiniens et Palestiniennes qui vivent ici, en Cisjordanie. Vous allez voir, si c'est pour vous comme pour moi, vous allez en apprendre beaucoup à travers ces histoires. Quand je lui explique qu'au checkpoint, ils nous ont laissé passer comme ça, sans contrôle, il rit doucement et commence à m'expliquer une chose que j'ignorais. Lui, avant de se déplacer d'une ville à l'autre en Cisjordanie, il se repasse mentalement une liste de questions que ses parents lui ont apprises très tôt. Vous voyez quand vous vous palpez les poches et que vous vérifiez que vous avez bien vos clés, votre portefeuille, votre téléphone ? Voici ce que ses parents lui ont appris à se demander à chaque fois qu'il prend la route.
Donc, les questions qu'il me posait, c'était « Est-ce que tu as ta carte d'identité avec toi ? » ?»« Oui. » »« Est-ce que tu l'as mise dans ton sac à dos ?» Et si je répondais « Oui », il me demandait de la sortir de mon sac. « Ne la mets pas non plus dans ta poche, garde-la dans ta main. » »« Et si tu conduis, mets-la près de la boîte de vitesse, de sorte à ce qu'elle soit vraiment à portée de main et visible. » Parce que si tu arrives à un checkpoint et que le soldat te demande ta carte d'identité et que tu vas la chercher dans ton sac à dos, c'est déjà quelque chose de très suspicieux pour le soldat et il serait prêt, à cause de cette suspicion, à te tirer dessus.
Et il me précise que ça, c'est s'il voyage à l'intérieur de la Cisjordanie. S'il veut se rendre sur le reste du territoire, c'est une autre histoire. Pour lui qui est un Palestinien de Cisjordanie. Au passage, je dis Palestinien de Cisjordanie parce qu'il existe plusieurs papiers d'identité pour les Palestiniens selon qu'ils sont de Gaza, de Jérusalem, de Haïfa, de Cisjordanie, de la diaspora. Et en fonction, ils n'ont pas accès aux mêmes droits. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode « Pour aller plus loin », trouble de l'identité. Bref, Sami m'explique comment ça se passe si lui, Palestinien de Cisjordanie, souhaite se déplacer ailleurs qu'en Cisjordanie, c'est-à-dire de l'autre côté du mur qui sépare la Cisjordanie du reste du territoire.
Premièrement, je ne suis pas autorisé à conduire les voitures avec une plaque d'immatriculation jaune, c'est-à-dire celles qui sont enregistrées auprès des autorités israéliennes. Deuxièmement, je ne suis pas autorisé à prendre ma propre voiture avec des plaques d'immatriculation palestinienne, donc les plaques blanches, pour conduire en dehors de la Cisjordanie.
Ça, c'est donc la première étape, la voiture. Mais ça ne s'arrête pas là.
Et moi, en tant que personne, même si je passais le checkpoint à pied, je n'aurais pas le droit de passer, sauf si j'ai ce permis très spécial que délivrent les autorités israéliennes aux Palestiniens. Et c'est seulement dans des cas vraiment rares et spécifiques. Et même si j'obtiens ce permis, ils vont y préciser le nombre d'heures que j'ai dans la journée pour pouvoir l'utiliser. Donc en général, ils vont écrire dessus « Ok, valide de 7h du matin jusqu'à 17h ». Donc peu importe ce que tu dois faire, peu importe l'endroit où tu dois aller, peu importe qui tu dois voir, tu dois le faire pendant ces horaires et après, tu dois retourner en Cisjordanie.
Pour aller à Jérusalem, par exemple, Sami, en tant que Palestinien de Cisjordanie, doit donc prendre en compte plusieurs choses. Étape 1, trouver un conducteur ou une conductrice. Ben oui, il faut une voiture plaquée jaune, donc israélienne, et il n'a pas le droit de conduire ses véhicules. Et s'il ne trouve personne pour le conduire, il devra se débrouiller autrement, et ce sera probablement beaucoup plus compliqué. Étape 2, il lui faut un permis, délivré par les autorités israéliennes, qui indique très précisément quand et combien de temps il a le droit de s'y rendre. Il faut savoir que depuis le 7 octobre, la plupart des permis des Palestiniens de Cisjordanie ont été révoqués par les autorités israéliennes, et que ceux-ci ne sont désormais délivrés qu'au compte-gouttes, avec des conséquences multiples, notamment le fait que beaucoup ont perdu leur travail. Et alors à votre avis, qu'est-ce qui pourrait lui arriver s'il ne suit pas ces étapes? Je ne pose pas la question dans le vide. Allez-y, posez-vous la question. Quel genre de conséquences si vous, vous n'avez pas la bonne plaque d'immatriculation? Ou si vous n'avez pas de permis pour vous rendre à un endroit? Une amende, peut-être? Oui, mais pas ici.
Bah, il y a des conséquences. Peut-être qu'ils ne te donneront plus jamais de permis, ou peut-être que tu pourrais être arrêté, battu, on pourrait te tirer dessus ou pointer son arme sur toi, te sommer de sortir de la voiture, te battre violemment, t'arrêter, peu importe.
Il conclut même de manière sarcastique en disant
« Ils seront toujours créatifs ».
Personnellement, je trouve ça plutôt déconcertant. D'abord, l'ampleur des conséquences est sans commune mesure avec celle que nous, on connaîtrait. Et puis comme à chaque fois, je suis surprise par le détachement dont il fait preuve pour me parler de choses aussi dures. Je ne suis pas sûre que je pourrais en rire si je devais régulièrement passer des heures à un checkpoint et être soumise au bon vouloir de soldats. Mais lui, alors qu'il le dit, il se resserre de quoi boire. Rien de nouveau sous le soleil de Cisjordanie, en somme. Parce que c'est la réalité. Une réalité quotidienne pour se rendre de l'autre côté du mur, y compris à Jérusalem, qui, comme vous le savez maintenant, se trouve pourtant à 15 km au sud de Ramallah. Sami conclut en résumant son expérience et celle des Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie comme ça.
N'importe qui, littéralement n'importe qui vient de n'importe quel endroit du monde peut être plus libre en Palestine que les Palestiniens eux-mêmes. C'est une des choses qui m'indigne le plus dans cette réalité.
Il marque une pause. Comme pour appuyer son propos, histoire que vous et moi, on se rende bien compte. Parce que ce dont on parle ici en fait, c'est de la liberté de mouvement des Palestiniens ici, chez eux. Et puis clope au bec, Sami me désigne de la main.
Tu es étrangère, si tu veux aller là, maintenant, d'ici jusqu'à Yaffa ou Akka ou Haïfa, tu peux.
Psst, si vous n'êtes pas familier des cartes et vous ne savez pas placer Haïfa, Yaffa, Akka, j'ai quand même mis une carte dans les notes de l'épisode. Mais bref, revenons-en à Sami.
Tu es une étrangère, si tu veux aller là, maintenant, d'ici jusqu'à Yaffa ou Akka ou Haïfa, tu peux. Tu peux démarrer ta voiture avec les plaques jaunes israéliennes, tu la démarres, tu conduis sans encombre jusqu'à Haïfa. Personne ne t'en empêchera, et s'ils le font, ils regarderont ton passeport et te laisseront tranquille.
Si vous vous souvenez bien du premier épisode, vous vous souviendrez donc qu'en tant qu'étrangère, j'ai non seulement le droit de venir en Palestine, contrairement à certains Palestiniens eux-mêmes, et une fois sur place, je peux aussi me promener sur tout le territoire à ma guise, ce qui n'est pas le cas de Palestiniens qui naissent et vivent ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça ahurissant. Mais Sami ne me laisse pas le temps de réaliser, et il continue avec ce qu'il appelle une anecdote.
J'ai une petite anecdote pour ce qui est de conduire ici. Donc, il y a environ 2 ans, on est allé à Jérusalem. Notre plan, c'était de monter sur les hauteurs du Golan. On était un groupe de 5 amis, on a loué une voiture à Jérusalem et on a décidé d'aller aux hauteurs du Golan. Donc, on allume Google Maps, on lui demande l'itinéraire pour Nazareth d'abord parce qu'on devait faire un arrêt là-bas.
Psst, La carte est toujours dans les notes de l'épisode. Je serai vous, j'irai y jeter un coup d'œil, mais si vous ne le pouvez ou ne le voulez pas, pas de souci. Écoutez simplement. Vous me direz quelle conclusion vous en tirez. Il faut simplement avoir deux choses bien en tête. La première, c'est que la destination de Samy se trouve de l'autre côté du mur qui sépare la Cisjordanie du reste du territoire. Et la deuxième, c'est que comme on l'a dit dans l'épisode 2, il est impossible de quitter la Cisjordanie sans passer par un barrage militaire israélien. Bref, maintenant que vous avez ça en tête, revenons-en à cette fameuse anecdote, comme il dit.
Donc on part, mais on n'a pas réalisé que Google Maps proposait un itinéraire qui traverse la Cisjordanie du centre jusqu'au nord et qui traverse un checkpoint pour aller de l'autre côté du mur, depuis le nord de la Cisjordanie jusqu'à Nazareth. Google Maps ne tilte pas, ou peut-être qu'il s'en fout du fait qu'il y a 3 millions de personnes qui vivent dans cette partie du territoire et qui ne peuvent pas emprunter cette route. Il y a 3 millions de personnes qui pourraient avoir de gros ennuis s'ils essayent d'emprunter cette route, parce qu'ils vont arriver à des checkpoints israéliens où ils ne devraient pas être, et ça pourrait les amener à devoir répondre à des questions, voire passer un interrogatoire, et les conséquences qui vont avec.
Vous vous rappelez de la liste des questions ? Bien vérifier son itinéraire fait aussi partie de cette même liste. Parce qu'ici, on ne peut pas compter sur un GPS comme on le peut ailleurs. Il y a trop de choses à prendre en compte.
Si vous êtes palestinien de Cisjordanie, si vous êtes un palestinien de Jérusalem, Haïfa, Yaffa, Akka, Gaza ou autre, veuillez prendre le barrage militaire à pied au nord, ouvert de 8h à 15h30. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible.
Ah, je vous l'avais dit que Google Maps c'était un peu spécial ici. Bref.
Bref, après 10 minutes de conduite, on réalise qu'on vient de revenir en Cisjordanie au lieu d'en sortir comme on pensait. Parce que, évidemment, une fois qu'on quitte la Cisjordanie, on ne veut pas y retourner, parce que quitter une nouvelle fois la Cisjordanie, c'est toute une histoire de passer par les checkpoints, avoir les questions des soldats, les permis, les bouchons, etc. Donc on est re-rentré en Cisjordanie sans le savoir et on a décidé de continuer en espérant que ça fonctionnerait. On ne voulait pas refaire toute la route vers Jérusalem parce qu'il y avait tellement de bouchons à ce petit point de contrôle que ça nous aurait pris des heures pour traverser à nouveau. Donc on a décidé de ne pas perdre de temps et on a conduit tout au nord de la Cisjordanie. Et là-bas, il y a un point de passage, donc après environ 2 heures de conduite, on arrive à ce point de passage et on réalise qu'il a fermé juste 15 minutes avant notre arrivée. Il fermait vers 15h et on arrivait à 15h15. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On demande aux gens, à des Palestiniens qui sont dans les environs, et ils nous suggèrent d'aller à Tul Karem. Ils nous disent que là-bas, il y avait un checkpoint ouvert 24h sur 24, donc on y va. On arrive et il est fermé. Ce qui veut dire que les gens qui vivent là ne peuvent pas nous dire quel checkpoint est ouvert. Et ça, ça montre à quel point la situation elle est volatile pour ce qui est des accès, parce que personne ne peut savoir quand un checkpoint est ouvert ou fermé, à quelle heure il ouvre, à quelle heure il ferme, il n'y a pas de planning, rien. Donc après ça, on décide de retourner à Jérusalem par le chemin qu'on avait pris au départ, on s'est mis en route, on arrivait 2 heures plus tard. J'étais le seul Palestinien de la voiture, une voiture avec une plaque jaune, donc israélienne, et les 4 autres, c'est tous des étrangers, et on arrive au checkpoint de Kalandia. Moi, j'ai pas le droit de passer ce checkpoint en voiture, à aucun checkpoint d'ailleurs, donc il faut que je sois à pied. J'y vais à pied et mes amis se rendent compte que le checkpoint est fermé pour les voitures, il est seulement ouvert pour les piétons. D'habitude, il est ouvert pour les deux, mais à ce moment-là, non. Il était fermé pour les voitures, mais ouvert aux piétons.
Sachez qu'en tant qu'étrangère, je l'ai déjà fait. Devoir déposer un ami palestinien parce que d'après son permis, il n'a pas le droit de passer le checkpoint en voiture. Et je le récupère après le checkpoint. Je me souviens que de le laisser là-bas, au pied de ce checkpoint, c'était un sentiment très, très spécial. Une différence de traitement très, très flagrante. Bref.
Donc je décide de passer par là, mais mes amis ne peuvent pas puisqu'ils sont en voiture, donc ils décident de faire environ 10 km de plus, faire le tour de Ramallah pour atteindre Jérusalem par un autre endroit, et donc on se met d'accord que je vais passer par Kalandia à pied, eux ils vont aller jusqu'au checkpoint de Hizma, et on se retrouvera quelque part à Jérusalem. C'est ce que j'ai fait, je suis passé à pied au checkpoint pour aller de l'autre côté du mur, j'ai pris un bus, je suis descendu du bus, j'ai marché un peu et je suis arrivé à une intersection où je savais qu'ils allaient venir et environ 20 minutes plus tard, on s'est retrouvés et ça aurait dû être un trajet de 3-4 heures. Donc on a quitté Jérusalem, il était 11 heures du matin et on est arrivé sur les hauteurs du Golan après minuit.
Je me rends bien compte que l'itinéraire n'est peut-être pas bien clair pour tout le monde, mais je vous rassure, il m'a moi-même fallu me concentrer bien fort pour être sûre de tout comprendre. Alors permettez-moi de résumer rapidement. Samy et ses amis sont partis de Jérusalem, donc de l'autre côté du mur par rapport à la Cisjordanie et Ramallah, pour aller tout au nord du territoire sur les hauteurs du Golan. Sauf qu'en suivant le GPS, ils sont retournés à l'intérieur de la Cisjordanie, et que pour en sortir, ça leur a pris des heures à emprunter des routes pas très logiques, puisqu'ils sont redescendus vers le sud pour re-rejoindre Jérusalem et reconduire en direction du nord en évitant de repasser par la Cisjordanie. Je vous assure, j'essaye de simplifier, mais je vous l'ai dit, c'est tout un schmilblick les routes ici. Et en réalité, comprendre l'itinéraire, ce n'est pas tellement le plus important. Ce qui compte, c'est de comprendre ce que Samy résume comme ça.
Donc, ça a pris 14-15 heures après avoir quitté Jérusalem pour arriver sur les hauteurs du Golan, soit 4 fois plus de temps qu'on aurait eu besoin pour aller là-bas. Et ça, c'est parce qu'on s'est retrouvé coincé à l'intérieur de la Cisjordanie et on ne pouvait pas en sortir. On ne pouvait pas trouver un point d'accès qui nous aurait permis de quitter la Cisjordanie, alors même que j'avais un permis, que j'étais dans une voiture avec des étrangers et une voiture avec une plaque jaune israélienne. Et ça, c'est censé être le cas de figure le plus simple. C'était vraiment comme s'évader de prison façon Prison Break.
Samy, lui, en est encore très frustré. Et je pense qu'on peut tous et toutes le comprendre. Pour nous, c'est une histoire. Pour lui, et tout le monde ici, c'est presque une histoire banale. Mais il ne me semble pas que c'est parce que c'est banal que ça devrait être normal. Et puis je ne sais pas pour vous, mais moi, la banalité des injustices ne les adoucit pas. Au contraire, peut-être même. Alors je crois qu'une conclusion sur laquelle on peut tous se mettre d'accord, c'est que les routes en Palestine, c'est tout, sauf une promenade de santé. Surtout pour les Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie. Enfin, il y a un dernier détail sur ces routes. Ou détail, ce n'est pas vraiment le mot, en fait. Si on résume pour l'instant, sur les routes, il faut avoir la bonne voiture, donc avec la bonne plaque d'immatriculation, mais aussi sa carte d'identité, à portée de main, son permis, de conduire, mais aussi de se rendre à un endroit, et puis on peut croiser des barrages militaires, des soldats, etc. Alors j'ai demandé à Samy. Ok, très bien cette anecdote, les routes, c'est pas une promenade de santé, tout ça. Ok, mais pourquoi se donner toute cette peine pour aller là-bas ?
La raison pour laquelle on est allé sur les hauteurs du Golan, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, enfin, des espaces sécurisés nulle part en Cisjordanie. Faire du camping en Cisjordanie, c'est extrêmement dangereux, c'est risqué, voire mortel. Tu peux te retrouver face à des colons israéliens.
Stop, un instant. Des colons israéliens. Il faut qu'on s'arrête là-dessus. Lui, comme tous les Palestiniens et Palestiniennes que vous allez entendre à partir de maintenant et dans les épisodes qui vont suivre, vont y faire constamment référence. Parce qu'eux-mêmes, ils sont constamment confrontés. Entre-temps, on a changé de sujet.
Ouais, une bière, c'est rafraîchissant, t'en veux une ? Ou de l'arak ? Peut-être qu'on en a encore.
Oui, je crois que ce ne serait pas de refus. Les sujets s'enchaînent, autant qu'ils alternent entre gravité et banalité. C'est toujours comme ça d'ailleurs. On parle de cuiseur vapeur, de la passion malsaine de DiCaprio pour les femmes beaucoup plus jeunes que lui, bref, on retombe dans la légèreté. Pourtant, vous et moi, on ne le sait pas encore, mais une boisson, et fraîche de préférence, ça ne peut pas faire de mal. Parce que le sujet de notre prochaine discussion est beaucoup moins léger que ça. Or, il est aussi trop central pour que nous ne soyons pas 100% concentrés. Alors prenez votre temps, vous aussi, allez vous chercher de quoi boire, un thé, un café, un jus, et revenez vite, parce qu'on n'en a pas terminé de papoter avec Samy. Yalla, je t'emmène. C'était un extrait de l'épisode 3 du podcast Yalla, je t'emmène que j'ai lancé avec Mewen Pétard il y a tout juste un an. Alors vous pourriez me dire que ça fait déjà un an, que la situation a sûrement changé, sauf que cette situation se vérifie toujours et c'est parfois pire puisqu'encore lundi dernier, le 13 octobre, le seul point d'accès pour les Palestiniens et Palestiniennes pour sortir de Cisjordanie a été fermé par les autorités israéliennes. Aucun moyen donc de sortir ou d'entrer en Cisjordanie par les habitants. C'est d'ailleurs une expérience qu'a vécue Touka. Elle va parler en anglais, mais promis, je reviens juste après pour traduire.
I am Touka Milham from Hebron, Palestine. I am 25 years old. And I graduated from Hebron University as a nutritionist. And I'm here in Marseille.
Yeah. Je m'appelle Touka Melhem, je viens de Hébron en Palestine, j'ai 25 ans et j'ai un diplôme de l'université de Hébron, en tant que nutritionniste et maintenant je suis ici à Marseille. C'était vraiment un long voyage. Les Palestiniens, on n'a pas d'aéroport, donc si tu veux voyager, il y a beaucoup d'obstacles. D'abord, il y a la partie visa et tu ne sais pas à quel point c'est compliqué pour simplement être arrivé au centre des visas. Et même sans parler de ça, on peut parler de Jéricho. Donc nous, on part de notre ville, moi c'est Hébron, on va jusqu'à Jéricho pour passer la frontière entre la Palestine, Israël, pour aller vers la Jordanie. Et ce jour-là où j'ai voyagé, c'était vraiment long parce que les soldats israéliens, les autorités israéliennes ont décidé de fermer la frontière d'un coup. On était à Jéricho et on a attendu 9 heures dans le taxi. Imagine, je me suis sentie vraiment mal pour le chauffeur parce qu'il a dormi sur le sol et tous les taxis et les hommes dormaient dans la rue et nous, avec ma mère, dans le taxi, parce que ça faisait 9 heures. Et finalement, les autorités israéliennes ont décidé d'ouvrir la frontière pour nous accueillir. Enfin, nous accueillir, je rigole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas accès, à part cet accès à Jéricho. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas d'autre accès que cet accès à Jéricho pour sortir de la Palestine. Peu importe où tu veux aller, il faut passer par ce point, Jéricho. Et depuis la Jordanie, tu peux voyager. Je suis partie de chez moi à 1h du matin et j'ai voyagé jusqu'à 2h de l'après-midi le jour suivant pour arriver à Amman, la capitale de la Jordanie. C'était vraiment un très long voyage. Donc ça m'a pris 2 jours de voyage. Et je
ne peux pas décrire l'anxiété ou la dépression ou toutes ces pensées négatives et sentiments qui sont passés dans votre mind. Et même quand j'ai arrivé à Jordan, après tout ce this awful things that happened to us, like we feel disrespectful, like they humiliate us, like in really bad way, like you just feel that you are not a human when you are traveling. There's a point of your life as a Palestinian when you just want to go from a city to a city. There's a lot of checkpoints, a lot of gates that Israel is just allowing us or not. Like at some point, it's just their decision to close it or to open it. So you will just stay like in this mixed feelings if you are going to cross these borders or no, all the time. Like you are just anxious all the time, 24 hours, and it just like make us feel that we are in a cage. Like there's a roof, of course, there's some air is going in, but you feel just you are in a cage or in a prison. So that's really, like, we don't know how to feel in this point because we are numbed, you know? Like these all negative thoughts that makes you feel, am I in a dream or a nightmare or what? For example, the first time I came to Marseille, I cried in the airport because I felt like there's this wind, weird wind with the freedom, you know? Yeah, yani, it was really touching. I can add maybe that people think that people in West Bank lives in a heaven. Like all eyes on Gaza, and I respect it and I really appreciate that the world finally sees the truth and they are standing with us and supporting us. But there's a lot of things going on in West Bank, which the social media and people don't, they are not aware of it. Like in West Bank, the situation is really horrible. Like you can go to visit your grandma and all of a sudden you see soldiers with weapons just walking across you or next to your house, and sometimes they just break your house and destroy all the things in your house. For example, my My uncle is a prisoner in an Israeli prison, like in Ofer, I think, because they just move them around every while and while. And the situation in West Bank is really horrible. It's like we are not living in a heaven or in somewhere that we are free or something. No, really appreciate that the world finally sees the truth and they are standing with us and supporting us. But there's a lot of things going on in West Bank, which the social media and people don't, they are not aware of it. Like in West Bank, the situation is really horrible. Like you can go to visit your grandma and all of a sudden you see soldiers with weapons just walking across you or next to your house, and sometimes they just break your house and destroy all the things in your house. For example, my uncle is a prisoner in Israeli prison, like in Ofer, I think, because they just move them around every while and while. And the situation in West Bank is really horrible. It's like we are not living in a heaven or in somewhere that we are free or something. No.
Ça me donne l'occasion d'ailleurs de parler de l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un accord de cessez-le-feu a été conclu récemment. J'ai posé la question à Touka justement de savoir comment elle vivait cette situation depuis Marseille. Pareil, elle parlera en anglais et je reviens juste après pour traduire, évidemment.
For the world, ceasefire means that Gaza is finally free.
Pour le monde, un cessez-le-feu, ça veut dire que Gaza est libre, enfin, que la Palestine est libre. Mais non, malheureusement, la Palestine est toujours occupée. Il y a toujours des soldats israéliens. Il y a toujours des soldats israéliens qui commettent des crimes contre les Palestiniens. Dans la, en Cisjordanie, à Gaza et n'importe où en Palestine. Bien sûr, je suis contente pour Gaza et que tout le monde puisse rentrer dans leurs maisons, mais malheureusement, elles sont où ces maisons ? Où sont les maisons que Israël a bombardées à chaque petit kilomètre carré de Gaza? C'est pour ça que je suis un peu partagée sur le cessez-le-feu. Je suis vraiment content qu'il n'y ait plus de bombardements, qu'il n'y ait plus de tueries. Mais on ne sait jamais s'ils pourront retourner chez eux à Gaza ou n'importe où en Palestine. D'une manière générale, on ne se sentirait jamais vraiment en sécurité ici en Palestine, à moins qu'on libère la Palestine, de la rivière jusqu'à la mer. Et j'espère vraiment que ça arrivera bientôt.
We never know if they will return to bomb Gaza or anywhere in Palestine. We will never feel safe unless Palestine is all free, from the river to the sea. And I really hope that happens really soon.
Je voudrais remercier Touka. C'est d'ailleurs elle qui m'a suggéré de vous faire écouter la chanson que vous allez entendre, Tilka Kadeya de Kairoki. Vous êtes sur Radio Galère à Marseille 88.4. يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنصف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك
المقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول عالبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناه علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول بالقتل بشرف ونزاهة وحياتي وتلك قضية وتلك قضية سددت أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجن واسع زنازين ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنهار تتشعل في رقاب القاتل تجمع أشلاك وتاتي وتوري الدنيا الكدابة الدباب مش فارق العالم يتكلم موت حر وما تعيش مسلم تلم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بالنادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين بينك ما شئت فايدانا لما اجري جوه السلخانة مش هخف ببرود الدان ولا قادر اتركى له صباح تلك قضية هذا كفاية
Vous êtes toujours dans l'émission Une heure en Palestine sur Radio Galère. À mes côtés, moi c'est Marie et j'ai co-créé le podcast Yalla, je t'emmène. Mais avant de continuer d'en fêter les 1 an, il y a aussi Rizlen à qui j'aimerais laisser la parole.
4, Une heure en Palestine. Je me présente, Rizlen, habitante de Marseille centre-ville, et j'interviens ici régulièrement pour vous parler de l'actu boycott et comment boycotter intelligemment, bien sûr. Un petit rappel, on n'oublie surtout pas que le boycott est un droit constitutionnel protégé. On commence par Disneyland. Le PDG de Disneyland a fait don de 2 millions de dollars à Israël. Et Marvel s'est préparé à libérer un super-héros du Mossad israélien. Les acteurs qui disent Free Palestine sont réduits au silence. Les soldats israéliens deviennent des stars Disney. Ce n'est pas du divertissement, c'est de la propagande. On continue avec la propagande de l'État génocidaire. Les documents révèlent qu'Israël paie des influenceurs jusqu'à 7000 dollars par poste pour inonder TikTok et Instagram de propagande pro-Israël. Cette campagne, financée par l'État, appelée le projet Esther, est menée par une société liée à l'armée de défense d'Israël, le Tsahal. De 14 à 18 influenceurs empochent près d'un million de dollars pour blanchir les crimes de guerre. Je vous invite à vous rendre sur le site bdsfrance.org qui traite très bien le sujet du boycott culturel de l'État génocidaire. Et on termine par la société Uber. Vous connaissez peut-être Uber Eats, les transports, etc. Cette entreprise vient d'investir des millions dans la campagne israélienne de drones Flitrex, la même technologie utilisée pour la surveillance militaire et l'occupation. Ce n'est pas de l'innovation, c'est de la complicité. Alors que Gaza meurt de faim, Uber finance la technologie de drones construite en Israël, élargissant son rôle dans l'oppression. Notre rôle en tant que consommateur est très important. Chaque personne compte et la consommation de chacun d'entre nous doit porter sur une responsabilité commune. Notre avenir est en jeu et le bloc humanitaire doit être plus lourd et plus responsable face à cette catastrophe qui se joue devant nos yeux actuellement. N'oublions pas que l'Afrique du Sud a rompu l'apartheid avec le boycott. La solidarité commune a joué un rôle gagnant contre l'injustice. Le boycott marche actuellement. Malgré les tentatives de dissimuler les dernières pertes au monde, cette tentative de vouloir cacher les pertes des entreprises boycottées est bien sûr une stratégie pro-sioniste pour nous faire croire que le boycott ne fonctionne pas, sachant très bien que connaître les pertes est une source de motivation pour les militants. Actuellement, l'appel au boycott est général. Pas besoin de rappeler que tous les jours, pendant plus de 2 ans, l'État d'occupation israélienne commet un génocide aux yeux du monde entier. Le boycott ciblé de la campagne BDS qui existe depuis 2005, où chaque entreprise a été étudiée pour être boycottée, vous avez le site bdsfrance.org avec toutes les infos du BDS qui signifie boycott, désinvestissement et sanctions. En priorité, le boycott ciblé, mais le boycott général est primordial. Doit aussi être un mode de vie pour nous. Vous avez les applications comme Boycott, Boycott X, No Thanks. Il y a juste à scanner le code barre pour savoir si c'est à boycotter ou pas. Et en plus, il y a les arguments fournis avec. Ça peut concerner l'écologie, ça peut concerner la question Palestine, qui sont liés, ces deux combats sont liés, bien sûr. Et pour finir sur une note positive, en ce moment, le boycott marche très 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 bien. Il y a beaucoup de pertes au niveau de l'entité sioniste. Je ne peux pas vous détailler toute la liste, mais on continue, on ne lâche pas et on se retrouve à la prochaine émission. Merci.
Merci Rizlen, et au plaisir d'entendre encore plus de choses que nous, on peut faire d'ici, plutôt que de nous morfondre dans notre torpeur d'impuissance qui, nous tous et toutes, nous étreint, je pense. On a des leviers d'action concrets et le boycott en fait partie en tant que consommateur et consommatrice chaque jour, donc merci Rizlen pour ce rappel. Et parmi les personnes que je voulais que vous entendiez aujourd'hui aussi, il y a quelqu'un d'autre. Je vous laisse écouter.
Je suis Amina Mousli, coordinatrice du secteur de communication et des projets transversaux chez Interculturel depuis 2023. Interculturel est une association qui œuvre pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers la mobilité éducative. Nos actions s'articulent autour de rencontres interculturelles de jeunes, de volontariats locaux et internationaux, de formations, de séminaires et de rencontres réseaux. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter un projet intitulé « Grain d'espoir ». C'est un projet trinational, franco-germano-palestinien, financé par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et Erasmus+. Ce projet est destiné aux 18-35 ans. Il est là pour explorer et partager les pratiques agricoles durables, innovantes et respectueuses de l'environnement. Donc, la première phase aura lieu à Marseille du 17 au 25 novembre 2025 et les deux autres étapes, Allemagne et Palestine, auront lieu en 2026. Les inscriptions sont ouvertes et vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup Amina pour cette présentation. N'hésitez pas, si vous êtes vous-même dans le domaine de l'agriculture et que vous êtes intéressé par ce projet d'échange interculturel, à prendre contact avec cette association interculturelle. Comme Radio Galère, elle est aussi basée à Marseille. Et pour les contacter, il suffit d'envoyer un mail à info@interculturel.org ou de visiter leur site internet, leur page Instagram, LinkedIn, etc. Et le temps que vous vous inscriviez à ce fabuleux échange entre la France, la Palestine et l'Allemagne, je vous propose d'écouter une autre musique proposée elle aussi par Touka, que vous avez entendue un peu plus tôt dans l'émission. C'est une chanson interprétée par Julia Boutros et qui s'appelle Abba Majdaka. On est toujours sur Radio Galère 88.4 dans l'émission Une heure en Palestine. Bonne écoute.
Oh,
Je vous remercie d'avoir écouté Une heure en Palestine. Moi, c'était Marie. Et je vous souhaite une bonne écoute sur les ondes de Radio Galère 88.4. Bintish Shalabi.